Europe 1, le 22-22-30.
Sophie Tussaud.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Les Anglais et les Français sont les meilleurs ennemis. Vous croyez pas ?
Il aurait eu 100 ans au mois de juin. Le prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II, est décédé aujourd'hui. Depuis l'annonce de sa disparition, le Royaume-Uni est en deuil et les hommages affluent de toutes parts. Le prince Philippe, qui était également une personnalité au caractère charismatique au sein de la monarchie britannique. La reine, son épouse, disait de lui qu'il était son roc. Retour sur un parcours exceptionnel dans ce journal. Également dans l'actualité de ce vendredi, le début des vacances de printemps avec les restrictions en vigueur. Pas question de partir au-delà des 10 km de son domicile. Les contrôles sont renforcés pour s'assurer du bon respect des mesures sanitaires. La vaccination, un changement pour les moins de 55 ans qui ont reçu une injection avec l'AstraZeneca. Ils se verront proposer un autre vaccin pour la seconde dose. Des dégâts considérables dans les vignobles après l'épisode de gel de cette semaine. Certains voient leur récolte entièrement perdue. Dans la vallée du Rhône, le prestigieux vignoble de la Côte-Rôti a été très touché. Le foot, match avancé de la 32e journée, le début bientôt de la deuxième mi-temps entre Metz et Lille, Patrick Müller.
Effectivement, c'est la pause, toujours 0-0 entre Metz et le leader lillois. Et
merci Patrick Müller, on vous retrouve en fin de journal. Et puis comme tous les soirs, la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. L'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Stéphanie de Boirévoile, propriétaire du château Angélus, pour parler des domaines viticoles touchés par le gel, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous rendons grâce en tant que nation et royaume à la vie extraordinaire et au travail du prince Philippe, duc d'Édimbourg.
À l'hommage de Boris Johnson et les condoléances du Premier ministre britannique à la reine Elisabeth II et à la famille royale, le prince Philippe s'est éteint paisiblement aujourd'hui au château de Windsor à l'âge de 99 ans. Les cloches de l'abbaye de Westminster ont sonné 99 fois ce soir à 19h et toute la journée, les Britanniques très émus sont venus déposer des fleurs au pied des grilles du Buckingham Palace pour rendre hommage au duc d'Édimbourg. À Londres, Élodie Goulesque pour Europe 1.
Devant les grilles du palais royal en ce moment, il y a des gens de toutes les générations. Certains sont là par curiosité et d'autres sont venus se recueillir. Une foule soudaine qui a même obligé le palais à enlever les écriteaux déposés plus tôt dans la journée et annonçant la mort du prince Philippe. Des précautions liées au coronavirus mais qui n'ont pas empêché Colin, 75 ans, d'apporter des fleurs et venir se recueillir devant le palais.
Le prince Philippe est un homme que j'ai connu toute ma vie. C'est un homme formidable et il a tellement fait pour ce pays que je suis honoré d'être ici aujourd'hui.
Le drapeau hissé sur le toit du palais n'est pas en berne, mais seulement à demi baissé pour marquer le deuil. Car aujourd'hui, les pensées des Britanniques ne vont pas seulement vers le prince Philippe, mais aussi vers la reine, comme l'explique Sandy, qui habite juste à côté de Buckingham Palace.
Nous sommes vraiment tristes pour la reine. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Et il a toujours été à ses côtés pendant les moments difficiles. Elle est un exemple pour nous tous.
Si l'annonce du décès du prince Philippe attriste le Royaume-Uni, elle n'est pas arrivée comme une surprise. Le duc d'Édimbourg avait été hospitalisé pendant un mois en mars dernier pour des problèmes cardiaques. Prince Philippe, comme on l'appelle ici, aurait dû souffler sa 100e bougie dans 2 mois et 1 jour. Londres, Élodie Goulesque, Europe 1.
Plus dommage au Royaume-Uni et plus dommage également dans le monde entier. Emmanuel Macron salue une vie exemplaire. Le roi et la reine d'Espagne, le sens du service et le dévouement du prince. Angela Merkel a exprimé sa tristesse et rendu hommage à son sens du devoir. À Washington, Joe Biden a salué son action dévouée durant des décennies. Le prince Philippe s'est donc éteint à l'aube de ses 100 ans. Lui qui n'était pas destiné à devenir roi aura marqué son pays par sa personnalité, son caractère impétueux, voire ses gaffes et un parcours hors du commun, Jean-Jacques Herry.
Oui, lorsqu'il naît le 10 juin 1921 sur l'île de Corfou, le jeune prince Philippe peut théoriquement briguer le trône du Danemark ou de la Grèce. Il figure en tout cas sur l'ordre de succession des deux royaumes, mais on le sait, l'histoire et l'amour en décideront autrement, car l'héritier ne goûte que très peu à l'insouciance de l'aristocratie. En Grèce, les militaires prennent le pouvoir et sa famille les chemins de l'exil. Son enfance, il la passe d'abord en France avant de traverser la Manche à l'âge de 7 ans, une enfance loin des siens. Sa mère mère, schizophrène, est internée. Son père est à Monte Carlo avec sa maîtresse. Le temps passe et l'adolescent, lui, fait ses classes au collège de Dartmouth où il vise une future carrière d'officier dans la Navy. Il y rencontre en 1939 la jeune princesse Elisabeth, 13 ans, venue en visite royale. Un coup de foudre suivi d'une correspondance assidue pendant toute la guerre et d'un mariage en 1947. Pour son épouse, Philippe renonce à sa nationalité. Le prince orthodoxe devient anglican, abandonne toute prétention au trône d'Europe et plus vite que prévu, lâche sa carrière d'officier. Car en 1952, la mort prématurée de son beau-père, le roi George VI, fait de sa femme une reine. Et dès lors, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, sera dans l'ombre, toujours deux pas derrière son épouse, comme le veut le protocole. Mais son influence moderniste est là, discrète. C'est lui, par exemple, qui pousse sa femme à l'exercice du bain de foule. Au début des années 80, il s'engage pour l'environnement, prenant la présidence du WWF, un combat qu'il évoque en 1991 sur Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach.
J'étais dans la marine pour 12 ans, alors on était toujours sur la mer. Si on habite dans la ville tout le temps, on n'est pas conscient de ça. Alors, on ne peut pas dire que c'est une patience, c'est quelque chose qu'on a appris.
Et est-ce que Sa Majesté la Reine soutient votre action dans le domaine de l'écologie?
Elle n'est pas contre.
Elle a
assez à faire à lui-même.
Et si on parle du prince, il faut aussi évoquer une personnalité haute en couleur, usant d'un franc-parler qui n'épargnait personne, pas même ses proches. Il ne ferait pas un bon roi, avait ainsi affirmé Philippe en privé à propos de son fils Charles en 2001. En retraite depuis 4 ans, le prince s'est donc éteint à l'aube de ses 100 ans. Une phrase peut-être pour résumer sa vie aux côtés de son épouse, une phrase prononcée par la reine elle-même en 2011. « C'est mon roc ». Il a tout simplement été ma force et mon soutien.
Jean-Jacques Arrier, jusqu'aux funérailles limitées par la pandémie de coronavirus, le Royaume-Uni observera une période de deuil national. Le prince Philippe avait exprimé sa préférence pour une cérémonie militaire à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor.
Europe 1, le journal de la nuit. Sophie Tussaud.
Ce vendredi soir sonnent les vacances de printemps, des vacances uniformisées pour les trois zones dans le cadre des restrictions sanitaires. Si une souplesse était acceptée la semaine dernière avec le week-end de Pâques, cette fois, il n'est pas question de partir à plus de 10 km de son domicile, sauf besoin impérieux. Les contrôles sont d'ailleurs renforcés tout le week-end, comme à la gare de Lyon où s'est rendu Justin Morin pour Europe 1.
Plusieurs équipes de policiers ont procédé ce soir au contrôle ici devant l'entrée des voies et effectivement cette fois, il fallait se justifier. Alors j'ai croisé des parents qui emmenaient leurs enfants chez les grands-parents, des déplacements aussi pour aller auprès d'une personne malade. Mais la principale raison, c'est le travail.
Vous voyagez pour quel motif, monsieur ?
Professionnel.
D'accord. Est-ce que vous avez une attestation ?
Je vais en Suisse.
Vous allez en Suisse, ça. Est-ce que vous avez une attestation professionnelle à me présenter ? Voilà, très bien, merci.
Le temps de scanner le QR code de l'attestation sur le téléphone, c'est très rapide. Ilyes a pu aller prendre son train.
J'ai ma petite attestation de travail. On n'a pas le choix, on se fie aux règles et on exécute. On reste poli avec eux, ils sont polis, respectueux, c'est bon. Et ça fait un moment, on s'y habitue.
Parfois, le contrôle a duré un peu plus longtemps, c'est le cas pour Alexandre.
Je passe mon temps en déplacement pro, donc à chaque fois, je fais une attestation ponctuelle. Et là, j'ai complètement oublié. Tout simplement. Et j'ai sorti mon attestation pro de la semaine dernière. J'ai montré la fois d'avant et c'est passé.
Preuve que le but n'était pas non plus de verbaliser à tout prix, mais certains n'y ont pas échappé, comme l'a expliqué le commissaire Christophe Guénard.
Nous avons quelques personnes qui n'ont toujours pas adhéré à ce principe et se font verbaliser lorsqu'ils n'ont pas d'attestation. Le dernier jeune homme, il traverse encore une fois la France, tout ça sans attestation, et il n'a pas l'air d'avoir bien compris.
Effectivement, ça reste rare, voilà.
Absolument. L'essentiel des gens ont compris.
Ce week-end, 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris en petite couronne pour effectuer des contrôles et éviter les déplacements non justifiés.
Justin Morin. Également dans l'actualité, le vaccin contre le Covid-19. Les autorités de santé se penchent sur les moins de 55 ans. Ceux qui ont reçu en première injection une dose de l'AstraZeneca se verront proposer un autre vaccin pour la deuxième dose, Anne Le Gall.
Voilà, il n'était pas question de se passer d'une deuxième injection pour les moins de 55 ans car l'efficacité vaccinale diminue très vite avec une seule dose. En recommandant le rappel avec un vaccin à ARN messager, la HAS indique qu'elle fait le choix de la sécurité. Il s'agit d'un schéma de vaccination mixte, explique le professeur Elisabeth Bouvet, avec deux vaccins différents qui provoquent le même type de réponse immunitaire.
Dans les deux cas, l'injection de vaccin va stimuler la fabrication de la protéine Spike et donc faire réagir le système immunitaire. Et donc là, l'ARN va jouer comme un booster, c'est-à-dire c'est déjà un rappel de vaccination. Il ne sera très vraisemblablement pas nécessaire, sauf peut-être dans des cas particuliers, de faire une dose supplémentaire d'ARN.
La vaccination mixte n'entraînera donc pas plus d'effets secondaires, indique la Haute Autorité de Santé. En revanche, il faudra attendre quelques semaines pour avoir des données précises sur son efficacité. Les experts sont confiants car ce type de combinaison a déjà fait ses preuves dans la lutte contre le VIH ou l'hépatite B. Et pour les plus de 55 ans, rien ne change. Le rappel se fera avec de l'AstraZeneca 3 mois après la première injection.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, l'AstraZeneca qui annonce ce soir des retards sur la moitié de ses livraisons prévues cette semaine dans l'Union européenne. L'Union européenne qui parallèlement vise à présent les vaccins de deuxième génération efficaces contre les futurs variants du virus. Elle veut en commander 1,8 milliard de doses supplémentaires. Du côté des chiffres, la pression est toujours forte sur les hôpitaux après une très légère baisse hier. Le nombre de patients en réanimation est reparti à la hausse aujourd'hui. Plus de 5 750 malades sont actuellement hospitalisés dans ces services. Dans ce contexte, toutefois, une note positive, il semblerait que les restrictions imposées mi-mars en Île-de-France et dans les Hauts-de-France commencent à porter leurs fruits, Victor Delande.
Oui, au niveau national, les indicateurs épidémiologiques se maintiennent à un niveau très élevé, mais quand on regarde la circulation du virus dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, la cassure est très nette sur les courbes. Le taux d'incidence a baissé très significativement dans tous les départements franciliens. Prenez la Seine-Saint-Denis, 665 cas pour 100 000 habitants. Alors, c'est encore beaucoup, mais il y en avait plus de 800 il y a à peine 10 jours. Même tendance dans le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, dans l'Essonne, à Paris, dans le Nord également et le Nord-Pas-de-Calais. Une baisse qui pourrait correspondre aux effets bénéfiques des mesures restrictives prises dans ces régions dès le 20 mars dernier.
Malgré tout, Victor, la pression reste forte sur les hôpitaux et le nombre de lits en réanimation augmente chaque jour.
Oui, déjà plus de 5 700 patients en réanimation dans tout le pays. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré ce matin que 50 lits étaient ouverts en moyenne chaque jour pour répondre à la demande. Entre 30 et 40 personnes admises quotidiennement en réanimation, ce qui permet donc de garder un peu de marge. Au total, il y aurait environ 8000 lits aujourd'hui de réanimation en France, contre 5000 avant le début de la crise sanitaire l'année dernière. Pour arriver à ce chiffre, il a fallu transformer des lits de soins continus en lits de réanimation, en les équipant notamment de respirateurs artificiels et de systèmes de surveillance plus poussés. Il faut aussi plus d'infirmières pour veiller en permanence ces patients très graves. Mais pour passer à 10 000, comme l'a promis Emmanuel Macron, il faudra aller encore plus loin, transformer des lits de médecine classique en lits de réanimation. Et l'étape d'après, l'ultime, c'est la création d'unités de réanimation dans des structures où il n'y a jamais de soins. Ainsi, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris vient juste de transformer son self en service de réanimation. 40 lits tout équipés qui ne reçoivent pas encore de malades et qui ne serviront qu'en dernier recours si vraiment les autres services débordent.
Merci Victor Delande. Dans l'actualité judiciaire, la cour d'assises spéciale a rendu son verdict ce soir. Reda Kriket est condamné à 24 ans de prison pour avoir projeté un attentat djihadiste en France avant l'Euro 2016, avec une période de sûreté des deux tiers. Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy ont passé toute la journée en garde à vue. Ils ont été interrogés dans le cadre de l'enquête sur les luxueux dîners clandestins organisés à Paris, au Palais Vivienne, où des ministres auraient participé. Il faudra plusieurs jours pour chiffrer les pertes à cause du gel. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de culture ont été sévèrement touchés par le brutal épisode de gel cette semaine. 10 régions ont été touchées. Les vignerons de Bourgogne et de la vallée du Rhône estiment par endroits la perte des récoltes quasi totale. Et parmi les vignobles très impactés, celui de la prestigieuse Côte-Rôtie, Jean-Luc Boujon.
Oui, le célèbre vignoble situé au sud de Lyon est complètement dévasté. Alors ce ne sont pas les images terribles de feuilles hachées menues qu'on peut voir après un orage de grêle l'été. Hein. C'est cette fois beaucoup moins spectaculaire parce que la végétation démarrait à peine. Mais c'est tout aussi grave, voire davantage, explique Mickaël Gerin, 13 hectares en Côte-Rôtie et patron de l'appellation.
On voit très bien sur le premier cep qui est devant nous, les deux bourgeons qui avaient éclos il y a quelques jours, il y a 10 jours, sont complètement grillés. Et là on voit que le deuxième cep c'est la même chose, le troisième, le quatrième, tout le rang. Peut-être au bout on aperçoit un bourgeon qui a été sauvé, quelques feuilles vertes, mais le reste, c'est pour ça qu'on estime à 80 voire 100% de pertes sur l'appellation Côte-Rôtie. C'est absolument dingue, on n'a jamais connu ça depuis 1938, autant de pertes en une seule fois, en une seule nuit. À partir de minuit et demi, une heure, il a commencé à faire moins et demi et c'est descendu jusqu'à moins 3 sur le vignoble, ce qu'on appelle un peu des gelées noires. On voyait rien au sol, il n'y avait pas de gelée blanche, mais un froid tellement intense.
Voilà, donc on peut déjà dire que le millésime 2021 sera très faible en quantité. Et maintenant, la crainte, c'est une ou deux autres nuits de gel annoncées pour la semaine prochaine et qui pourraient avoir raison du peu de bourgeons qui restent.
Jean-Luc Bougeon dans la vallée du Rhône pour Europe 1. Et l'Association des régions de France a demandé ce soir au gouvernement la création d'un fonds d'urgence dédié au nom de la solidarité nationale. On passe au sport, le football, la 32e journée de Ligue 1 avec un match avancé ce soir, Metz-Lille, et toujours pas d'ouverture de score, Patrick Muller.
Effectivement, score nul et vierge 0-0 après 57 minutes dans cette rencontre, mais soirée compliquée pour le LOSC, le leader qui compte 3 points d'avance sur le PSG, qui voulait accroître cet avantage au classement, mais qui se casse les dents pour l'instant face à une équipe messine qui s'est créée l'essentiel des occasions et des situations, avec notamment ce pénalty manqué par les Messins après un quart d'heure de jeu. Plus exactement, c'est une très belle parade de Mike Maignan face à Léa Iseka, l'attaquant du Football Club de Metz. Et puis tout à l'heure, en début de seconde mi-temps, à la 51e minute, une frappe déviée du jeune Pape Matarsar qui vient s'écraser sur le poteau de Mike Maignan. Vous le voyez, les Lillois qui sont ballottés pour l'instant par des Messins courageux, 0-0, alors que encore une fois un super barré de Mike Maignan, le gardien Lillois, 58 minutes, 0-0, ça chauffe pour le LOSC.
Merci Patrick Muller. À Metz pour Europe 1, on vous retrouve à 22h30 pour un point sur le match. Et puis on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe de France avec comme grosse affiche Lyon-Monaco. Le PSG de son côté affrontera Angers. Les autres rencontres opposeront Canet-Roussillon à Montpellier et Rumilly-Vallières à Toulouse. Il nous reste à voir la météo et ce sera un temps perturbé et pluvieux demain, Anissa Dadi.
Oui, c'est pas franchement un beau week-end qui s'annonce, Sophie. Alors demain, au nord de la Seine, de la Bretagne jusqu'aux Ardennes, en passant par les Hauts-de-France, le ciel est très couvert. Un ciel pluvieux également toute la journée. Plus au sud, de la Gironde à la Lorraine, en passant par le centre Val-de-Loire ou encore le Nivernais, le ciel alterne entre nuages éclaircis et averses. Dans l'après-midi, le ciel va se couvrir avec des averses qui deviennent de plus en plus fréquentes et même orageuses dans le sud-ouest, dans les Landes et le Pays Basque en particulier, en Occitanie, en Auvergne, en région Rhône-Alpes et en Alsace. Dans toutes ces régions, le temps est beaucoup plus calme, avec un soleil qui sera souvent voilé. Au bord de la Méditerranée, nous avons là aussi une instabilité qui s'installe avec sur les Cévennes et la Corse, des pluies qui restent présentes toute la journée. Vous l'avez compris, c'est un temps à rester au chaud et à la maison. Le vent du sud, en plus, souffle comme aujourd'hui sur toute la moitié sud du pays, sans exception. Alors les températures, avec ce mauvais temps, elles remontent. Nous aurons 5 degrés à Aurillac demain matin, 7 à Belfort, 8 pour Lyon et 9 à Paris et 12 pour Biarritz. Et puis au meilleur de la journée, comptez 8 à 14 degrés au nord, 8 pour Dunkerque, 14 à Paris, et jusqu'à 22 degrés dans le sud avec 16 degrés à Nîmes, 18 à Marseille, 21 à Bordeaux et 22 la maximale pour Agen.
Merci Anissa Dadi. Europe 1. Restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit, la Bourse, avec Claire Lemaître de Boursier.com et puis l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Stéphanie de Bois-Rivoil, propriétaire du château d'Angélus. On se retrouve dans un très court instant.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud. 22h18, l'heure de faire un point sur la Bourse.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et nous sommes avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Wall Street poursuit son ascension ce soir. Les grands indices américains sont au plus haut avec deux nouveaux records historiques pour le Dow Jones et le S&P 500.
Oui, nouveau record pour le Dow Jones à 33 802 points. Il est en hausse de 0,9%. Pas de record pour le Nasdaq, mais on n'est pas très loin. Il gagne 0,51%, 13 900 points. Les marchés sont toujours dopés par les espoirs de reprise économique et on attend aussi la saison des résultats financiers à partir de la semaine prochaine. Résultats qui devraient être bons. Les analystes pensent que les profits des entreprises du S&P 500 ont bondi de 25% par rapport à l'année dernière. Mais évidemment, l'année dernière avait été catastrophique avec le début de la crise sanitaire. Du côté des valeurs, ce soir, parmi les grandes techno, Apple s'adjuge 2%, Microsoft plus 1% et Amazon plus 2,1%.
Bon, en revanche, ce n'était pas une très bonne séance pour Boeing qui termine ce soir dans le rouge. L'avionneur est rattrapé une fois encore par les difficultés de son 737 MAX.
Et oui, quelques semaines seulement après le retour dans les airs de l'appareil, l'avionneur a demandé à 16 clients de ne plus utiliser certains de leurs MAX tant qu'un possible problème électrique n'est pas résolu. Mauvaise nouvelle donc pour Boeing qui cède 1%. Et puis séance compliquée aussi pour Johnson & Johnson en baisse de 1,1%. 5%. L'Agence européenne des médicaments enquête sur 4 cas, dont un mortel, de formation de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu son vaccin. C'est donc les mêmes suspicions qu'avec le vaccin du laboratoire AstraZeneca.
À Paris, le marché termine la semaine sur une hausse symbolique, on dira. Il reste toutefois bien installé au plus haut niveau depuis 14 ans.
Voilà, une toute petite hausse de 0,06%, 6169 points. Mais le bilan de la semaine, il est positif pour le CAC 40, qui gagne un peu plus de 1%. À côté valeur, Airbus engrange 0,3%. L'avionneur a annoncé une augmentation de ses livraisons le mois dernier. C'est la première fois cette année. Et puis du vert aussi pour Hermès, plus 0,9%. Le groupe de luxe bénéficie d'un nouveau soutien d'analystes. Clôture mitigée en Europe ce soir. Francfort gagne 0,2%, mais Londres perd 0,4%. Milan, moins 0,6%. Madrid, moins 0,8%. Et le CAC 40 résiste en hausse de 0,1%, 6169 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Prochain point sur la bourse sur Europe 1, ce sera lundi soir et ce sera avec Didier Hamou. 22h21, c'est l'heure de l'invité éco avec vous Emmanuel Duteil.
Bonsoir Stéphanie de Boire-Rivoal.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Vous êtes à la tête du château Angélus, c'est l'un des plus grands noms du vin en France. C'est un Saint-Émilion, on est donc dans le Bordelais. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler du gel qui a touché de nombreux vignobles ces derniers jours. Et si on a voulu vous passer un coup de fil à vous, c'est parce que vous aviez été touché par le gel en 2017 et depuis, vous vous êtes fortement équipé. C'est ça qui vous a sauvé ce coup-ci ?
Oui, alors en 2017, on avait été touché assez fortement sur le carillon d'Angélus, notre second vin. Sur Angélus, on avait été un peu moins touché, mais ça nous a forcé à prendre des mesures de protection très importantes, puisque nous sommes équipés désormais avec des tours anti-gel et des bougies qui nous permettent aujourd'hui de résister, de se protéger. Et nous avons pu, les deux dernières nuits, résister grâce donc à tout cet équipement, aux équipes qui ont été présentes à partir de 23h jusqu'à 6h du matin dans les vignes, à allumer tour à tour les différentes bougies, ainsi que les tours anti-gel qui sont d'ailleurs contrôlées par des sondes, puisqu'on a un certain nombre de sondes réparties sur l'ensemble du vignoble, qui nous permet d'être très précis par rapport à l'appréciation des températures.
Mais sans ça, c'était la catastrophe assurée.
Démarche, d'ailleurs, c'était la catastrophe pour certaines parcelles. C'est évident qu'on aurait perdu, on aurait été touché par le gel sur une partie du vignoble. Je peux pas la quantifier en pourcentage, ça aurait pas été la totalité puisqu'on a des parcelles qui sont plus ou moins gélives, mais il est évident que sur une partie du vignoble non négligeable, il y aurait eu des pertes importantes.
Mais comment on fait pour le prévoir ? C'est-à-dire que tout simplement, on regarde la météo, on se dit, oula, là on nous annonce une vague de gel en cette période de début avril, donc même si on le fait par précaution, on le fait quand même et on préserve tout.
On le fait par anticipation, déjà c'est d'installer dans les vignes quelques jours auparavant tout ce dispositif dont je vous ai parlé, que ce soit les bougies, hein, c'est plus de 2000 bougies qui sont installées dans les rangs de vignes, donc ça on le fait en anticipation, et les tours anti-gel également, on les positionne dans les vignes en anticipation. Ensuite, on les active uniquement parce qu'on suit de façon très précise, grâce à ces sondes, les variations de température. Donc on a des indications qui sont assez globales, mais qui se précisent au fur et à mesure grâce à ces sondes, qui sont reliées au téléphone portable et qui nous indiquent de façon extrêmement précise la température. Il y a la température sèche et la température humide. Alors on rentre dans le détail, mais c'est très important puisque la vigne transpire. Donc il y a ce phénomène d'humidité qui peut faire qu'une température sèche est à 1 degré, alors qu'une température humide est à moins 2 degrés. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'à moins 2, ça gèle.
Mais pardonnez ma question complètement idiote, là. Les 2000 bougies, faut les allumer une par une à la main ?
Absolument. On a des équipes qui sont mobilisées la nuit et qui tournent sur l'ensemble du vignoble. Il y a une particularité pour les tours anti-gel, hein, comme les éoliennes, les tours anti-gel, qui, elles, peuvent être activées à distance selon les informations qui sont communiquées par les sondes en fonction de la température relevée.
Donc on l'entend, vous avez réussi à vous préserver de cet épisode de gel. Si on regarde maintenant globalement comment ça va en ce moment, hein, je le rappelle, vous êtes du côté du Château Angélus, l'un des plus beaux vins de France, en tout cas l'un des plus beaux vins de Bordeaux. Les restaurants sont fermés, les grandes tables sont fermées. Comment ça va tout simplement chez vous en ce moment du côté du Château Angélus ?
Écoutez, je trouve que dans le vignoble, hormis l'épisode de gel, mais que nous avons traversé quand même puisqu'on a été épargnés, je dirais que le secteur viticole est quand même assez protégé, assez épargné. En revanche, le secteur de la restauration, et vous savez que nous avons deux restaurants, un à Saint-Émilion, le Logis de la Cadenne, et un à Bordeaux, le Gabriel. Nos deux restaurants étoilés sont fermés. Nos équipes ont le moral en berne et on n'a aucune visibilité sur la suite puisque les échéances sont décalées les unes après les autres. On a eu la chance d'ailleurs d'avoir une étoile récemment pendant la période de fermeture dans notre restaurant à Bordeaux, donc c'était merveilleux, mais les équipes ont besoin de travailler et d'être actifs à nouveau, donc c'est une période assez compliquée, assez morose pour nos équipes, pour la restauration. Pour le château, on tient bon, on a les reins solides, on continue à faire de grands vins et on s'apprête à présenter le millésime 2020 en primeur, alors sous forme de visioconférence pour le grand export et à la propriété. Pour nos
comment on fait déguster du vin en visioconférence? Ça paraît complètement antinomique parce que surtout un grand vin comme ceux que vous proposez du côté du Château Angélus, Stéphanie de Bois-Rivoal.
Oui, absolument. Écoutez, c'est pas l'habitude du tout. Au contraire, c'est une pratique qu'on n'a pas l'habitude de mettre en place. Mais je dirais qu'à conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et donc nous pouvons envoyer des échantillons en prenant toutes les précautions nécessaires, des conditions d'envoi, de température, avec des dates de dégustation limites, pareil, pour que la dégustation se passe dans les meilleures conditions. Donc les échantillons sont reçus par le destinataire qui va ensuite les déguster par visioconférence avec nous depuis la propriété.
Est-ce que vous sentez une reprise, la reprise américaine, la reprise chinoise? Alors la Chine est encore un tout petit marché pour le marché du vin, mais est-ce que vous sentez cette reprise au-delà des fermetures en France?
Absolument. La reprise pour le continent asiatique et en particulier la Chine a démarré depuis de façon importante, puisque je pense qu'il n'y a pas eu d'arrêt vraiment, mais elle a démarré de façon importante en janvier. Et les États-Unis, évidemment, suite aux suspensions, on peut pas dire que ce sont des levées, mais aux suspensions des taxes, une reprise, un enthousiasme sur les marchés. Donc tous les négociants que je rencontre en ce moment sont plutôt indiquent des voyants qui sont au vert dans l'ensemble, et je ressens effectivement un marché sans qualifier d'euphorique qui est plutôt enthousiaste, donc je trouve qu'on est assez préservé, comme je vous l'indiquais auparavant.
Eh bien, on va croiser les doigts. En tout cas, un grand merci Stéphanie de Bois-Rivoal, la patronne du château Angélus, d'avoir été notre invitée ce soir. Nous, on se retrouve lundi 22h20.
Merci Emmanuel Dutheil. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. On vous retrouve Emmanuel lundi soir pour l'invité. Quoi avant cela, de 13h à 14h pour La France Bouge, aux côtés d'Elisabeth Assayag. Et lundi, vous parlerez maison de retraite. Votre invité sera Sophie Boissard, la directrice générale de Korian, l'un des leaders du secteur.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
À la une de vos quotidiens demain, cette photo du prince Philippe de profil, chapeau melon à la main, sous une pluie britannique. Dernier salut à la une de Libération. Philippe d'Édimbourg, la dernière sortie du prince consort, titre le quotidien. L'époux de la reine Elisabeth s'est éteint aujourd'hui, paisiblement à l'âge de 99 ans. Le prince Philippe également en photo à la une du Figaro, une vie au service de la couronne. Le Figaro qui s'intéresse également au-dessous d'un affront diplomatique entre la France et l'Algérie. L'annulation à la dernière minute d'un important sommet bilatéral prévu dimanche a été mise par Paris sur le compte du Covid. Mais Alger l'a provoqué en estimant que la délégation française n'était pas d'un niveau suffisant. Le Figaro économie, lui, nous apprend que la crise actuelle n'a pas fait exploser le travail au noir. Le soutien public aux employeurs et l'absence d'activité dans certains secteurs ciblés ont limité le recours massif depuis un an à l'emploi dissimulé.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Avant de retrouver la libre antenne, on fait un détour par le stade de Metz qui reçoit Lille en ce moment. Patrick Muller, et Lille a marqué.
Effectivement, le score est ouvert depuis la 59e minute. Le LOSC qui mène 1-0. But superbe, hein, véritablement, de la part de Burak Yılmaz. 10e but cette saison pour l'international turc. Son premier depuis le 9 janvier dernier. Lui qui a été longtemps blessé. Et vraiment, il part dans le dos de la défense. À la limite du hors-jeu, l'appel est parfait. Et derrière, il y a ce vrai missile dans la lucarne gauche d'Alexandre Okidja, le gardien messin. Alors que là, il y a un petit flottement dans la défense lilloise. Le but est splendide, il est plein de sang-froid effectivement l'international turc, et ça vient un petit peu contre le cours du jeu parce que les Messins se sont créés beaucoup de situations, 4 occasions franches, mais le réalisme pour l'instant des Dogs fait la différence ici au Stade Saint-Symphorien, le leader qui mène 1-0 donc grâce à Yılmaz, but inscrit à la 59e. Il reste 17 minutes à jouer.
Merci Patrick Müller au Stade de Metz pour Europe 1. Il est 22h30 à présent, c'est l'heure de retrouver la Libre Antenne. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Sophie.
Comment allez-vous ?
Ça va et vous ?
Ça va super bien.
Alors je vous attends dans une demi-heure pour les prochaines infos.
Je serai là tout à l'heure.
À tout à l'heure.